Dans le cœur, ça fait 15 jours que j'ai vu ce jeu de mots devant mes yeux. Et que Dieu m'a dit, voilà, ça c'est bon, c'est bon, c'est quelque chose qu'il faut enseigner, avoir cette joie. Alors c'est vrai que des fois, on n'est pas tous à avoir le sourire à la banane comme ça, jusqu'aux oreilles, à rire des fois bêtement. Et moi le premier. Mais c'est vrai que c'est important pour moi. C'est important de pouvoir avoir ce bonheur, cette joie de venir à l'église. On a, comme disait tout à l'heure Sandy, on a ce mariage la semaine prochaine. On a un couple qui va s'unir devant Dieu. On a un couple qui va faire le choix de pouvoir marcher ensemble pour servir Dieu. Et c'est vrai que quand on connaît leur témoignage à Noémie et Julien, même Julien, quand on a commencé à le voir venir à l'église ici, c'était assez amusant de le voir graviter ici et puis de voir comment il a grandi. De voir des fois des personnes qui ont cette joie de pouvoir, et quand, même Julien, quand on le voit à la batterie, il est heureux. Il a cette joie, ça se voit sur son visage, il est heureux de pouvoir mettre son talent pour le service de l'église. J'ai vraiment un moment dans la semaine dernière, j'étais au volant de ma voiture et puis je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu une bouffée de bonne humeur. Pourquoi ça vous fait rire? Je ne m'attendais pas au rire. Je n'avais pas noté ça. Non, c'est pas ce que j'ai... C'est vrai que j'ai eu une bouffée de bonne humeur. J'étais bien, j'étais vraiment dans, je sais pas, il y avait une plénitude qui était là et j'étais heureux de vivre. Je ne dis pas que le reste du temps je ne suis pas heureux de vivre, mais à ce moment-là, j'étais bien. Et j'ai commencé à analyser en disant, mais si bon sang, on pouvait être comme ça tout le temps, si on pouvait être comme ça tout le temps, le bonheur, c'est quoi? C'est quoi le bonheur? Alors j'ai pris une définition, vous savez que j'aime bien aller dans le dico. Définition de bonheur, c'est un état de satisfaction complète caractérisé par sa stabilité et sa durabilité. C'est un état de satisfaction complète caractérisé par sa stabilité et sa durabilité. C'est ça le bonheur. Si c'est ponctuel, si ça dure 5-10 minutes, c'est pas du bonheur, c'est de la joie. Eh bien, moi, j'ai envie d'avoir ce bonheur tout le temps. Et je suis un homme heureux. Je suis un homme heureux. J'ai tout ce qu'il faut dans la vie. J'ai une femme super, j'ai des enfants super, j'ai une jolie maison. Mais ça, c'est que le matériel. Enfin, pour la maison, c'est le matériel. Je ne vais pas dire que Pascaline, elle est matérielle. Oh la vache, j'ai eu chaud sur le coup, là. Heureusement que je m'écoute parler, parce que... Non, mais si, c'est vrai que si on commence à s'arrêter à la voiture, à la maison, avoir un joli vélo pour ceux qui font du sport. C'est quoi le sport? Ça c'est matériel. Et le bonheur, c'est pas ça. Le bonheur, c'est le fait de, dans son cœur, avoir une plénitude, avoir quelque chose qui dure dans le temps et qui est stable. Et c'est vrai que des fois, on peut avoir des humeurs qui sont comme ça, qui sont variables. Un coup, on est dans le sac, on est au ras des pâquerettes. Et puis le lendemain, comme là, j'ai eu moi dans ma voiture une bouffée de bonheur. C'était bien. Alors je dis pas que ça n'a pas duré, parce qu'après vous pourriez me dire, oui, mais Fred, si ça n'a pas duré, c'était pas du bonheur. C'était juste un moment de joie. Pourquoi pas? Mais ça n'empêche que je suis quand même, quand je fais la synthèse de tout ce que j'ai dans ma vie, j'ai tout pour être heureux. J'ai tout pour être heureux. Et en premier lieu, j'ai Jésus dans ma vie. J'ai un Dieu qui me permet d'être heureux. Et le principe d'être là, ce matin dans l'église, moi j'ai cette joie de venir à l'église. J'ai vraiment la joie, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis un petit peu attristé parce que j'ai plus beaucoup de temps pour faire les activités de l'église. Je peux plus venir, par exemple, aux répétitions le jeudi soir, et je suis chagriné par rapport à ça. Je suis chagriné parce que je peux plus aller en ce moment aux réunions pastorales. Je suis chagriné parce que j'ai un métier qui est un bon métier, j'ai une bonne place, mais ça vient grignoter ce bonheur spirituel que j'ai, parce que mon Dieu aime que je sois heureux pour lui. Alors oui, effectivement, je peux avoir un beau métier qui me rend heureux, qui me rémunère bien. Mais est-ce que c'est ça le bonheur? Est-ce que le matériel, est-ce que c'est ça qui va donner le bonheur? Et moi, je pense que Dieu a envie qu'on soit dans le bonheur pour pouvoir l'honorer. Le B point honneur. Avoir du bonheur pour honorer son Dieu. J'entends des fois, ne serait-ce que, bon, et je sais que ça ne va pas leur plaire, mais Et j'ai mon fils qui me dit des fois, oh, vivement à la retraite. Ah, pour ceux qui ne le connaissent pas, mon fils, il est là-bas. D'accord? Il se marre, hein? Hein, Nicolas? Vivement à la retraite, il a 14 ans. J'en ai 46 et même moi, je ne sais pas quand est-ce que c'est ma retraite. Est-ce que c'est le fait d'être à la retraite qui va me donner le bonheur? Non. Des fois, même eux, ils se disent, bah, le lycée, ce sera bien. Parce qu'en ce moment, ils sont au collège, ils se disent, bah, tiens, le lycée, ce sera bien. Ou alors, il y en a d'autres, peut-être que Julien et Noémie, ils se disent, ouais, dans une semaine, on est mariés, on sera mariés. Moi, ça fait 23 ans que je suis marié. Bon, des fois, c'est pesant, hein, c'est lourd. C'est une plaisanterie, hein, je plaisante. Ça se passe bien, ça se passe bien. Ouh, je vais bien, tout va bien, vous le connaissez? Mais c'est vrai qu'on a des étapes dans la vie où on pense qu'une étape passée nous donne un moment de joie et la prochaine va nous donner encore le bonheur. Et on est tous à attendre la prochaine étape. Non? Donc on va commencer. Vas-y, Louis. On va commencer par le psaume numéro 1. Le psaume numéro 1, il y en a 150. Vous avez un peu de temps devant vous? Et le premier mot des psaumes, c'est quoi? Heureux. Le premier mot des psaumes, heureux. Et ça, c'est le psaume du bonheur. Parce que c'est une recette. C'est une recette. Moi, à la maison, j'ai une femme qui est passionnée de cuisine, elle ne lit que des recettes. Elle ne lit que ça, des recettes, tout le temps. Eh bien, je vais en donner une recette spirituelle. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir, son bonheur, dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi? Parce qu'il est un arbre planté près d'un courant d'eau et son feuillage est constamment vert. Et comment il fait ça? En étant dans la présence de Dieu. Une image que j'ai reçue, je ne l'ai pas donnée la semaine dernière. Je souffrais dimanche dernier, j'avais mal et on était dans la louange. Et je me dis, tiens, je vais plus rien faire. Je vais me plonger dans la louange, mais dans le principe de ne pas chanter, de ne pas prier, de ne pas ouvrir ma bouche. Je vais juste profiter du moment. Et je me suis mis dans la louange et j'ai écouté, je vous ai écouté chanter. Et ça m'a fait un bien fou. Et quand j'ai fait ça, j'ai une image qui est venue devant mes yeux. Et Dieu m'a montré deux éléments importants. D'un côté, vous avez une piscine olympique. Vous voyez une piscine olympique? C'est du sport. Du quoi? Bon, du sport. Piscine olympique, et puis d'un autre côté, vous avez un spa. Vous savez ce que c'est un spa? Vous savez, on appelle ça un jacuzzi ou un spa. Voilà. Ce n'est pas la Formule 1. Voilà. Et en fait, ce sont deux outils, entre guillemets, qui ont le même univers. L'univers, c'est un univers qui est aquatique, aqueux. D'accord? C'est de l'eau. Et par contre, l'utilité du spa ou de la piscine n'est pas du tout la même. Parce que dans une piscine olympique, on est là pour faire des longueurs, normalement. Et pouvoir, en fonction des longueurs, eh bien, prendre soin de son corps. Et de pouvoir se muscler, de pouvoir avoir une lutte, parce que le sport, c'est une lutte. Ça dépend qui, mais pour moi, c'est une lutte. Et puis à côté de ça, vous avez le spa, où là, vous ne faites rien. Vous êtes dans le spa, toujours dans l'eau. Et c'est le spa qui vous masse. Et vous n'avez rien à faire que de ne profiter que des jets qui sont bien placés pour pouvoir vous faire du bien au corps. Et en fait, la semaine dernière, j'ai vécu ça. J'étais dans un moment où j'étais pas là pour faire du sport spirituel. Parce que quand on est dans la louange, on est là pour honorer Dieu. On est là pour honorer Jésus. On est là pour lui apporter quelque chose, le meilleur de nous-mêmes. Et moi, je suis passé dans un autre univers, entre guillemets. Je me suis mis dans la louange et j'ai profité, moi. Je me suis dit, Seigneur, c'est toi qui prends soin de moi. Vous voyez la nuance? La piscine olympique est là pour que nous, on fasse l'exercice. Et c'est bien de pouvoir être dans l'exercice spirituel. Et, mais il y a aussi le principe de dire, Seigneur, prends soin de moi. Mais l'univers, il est le même. C'est-à-dire qu'on est dans un principe d'eau. Et l'eau, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Quand on est comme là, il y a des images, tout le temps dans la Bible, il y a des images avec des ruisseaux, des rivières, avec le fait de se baigner dans l'onction, etc. Parce que, eh bien, cet univers, il est là pour qu'on se baigne dedans. Il est là pour qu'on s'inonde dans la présence de Dieu. Et à partir du moment où vous vous inondez dans la présence de Dieu, eh bien, vous êtes bien. Et vous êtes dans le bonheur. Vous êtes dans le bonheur. Et moi, la semaine dernière, j'étais dans le spa. Vous m'avez pas vu, hein? J'étais dans le spa. Alors que vous, étiez dans une piscine olympique. Peut-être pas tous, peut-être que d'autres étaient dans un spa. Moi, j'étais dans le spa. Il faut vraiment faire cette nuance entre le principe de lutter d'un point de vue spirituel du terme. C'est-à-dire qu'on peut très bien être dans la présence de Dieu et être en train de prier pour quelqu'un pour avoir une guérison ou avoir une délivrance. Ça, c'est la piscine olympique. Et puis, on peut très bien être là dans un moment où on se dit, Seigneur, prends soin de moi, j'ai besoin, je lâche les armes, je dépose au pied de ton trône, je dépose tout et j'ai besoin que toi, tu prennes soin de moi. Allez. Et là, on a les petites bulles et les petits jets qui sont là, qui font du bien sur toutes les parties du corps. Ça va? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Verset 3. Le 4 maintenant, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. S'il est ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Dieu veut ton bonheur. Il veut ton bonheur. Il veut absolument que tu puisses être dans tout ce qu'on vient de lire dans le verset 3 ici. Tout ce que tu fais, ça réussit. Parce que tu as réussi à te mettre dans une attitude de présence avec Dieu. Et si on était tout le temps dans la présence de Dieu, et si j'étais tout le temps dans la présence de Dieu, j'aurais toujours la banane sur le visage. Sauf que les éléments dans la vie viennent accaparer ça. Ils viennent nous prendre ce que Dieu veut absolument inculquer dans nos vies, dans nos cœurs. Vas-y Louis. Alors, bonheur, le B comme bénédiction. Et je vais prendre chaque lettre et je vais vous donner des motifs d'être heureux. Des motifs d'être heureux. Parce qu'on en a plein des motifs. Sauf que dans notre quotidien, je les oublie. Je suis tellement accaparé, je suis tellement en train de rouler dans ma voiture ou être devant mes clients, etc., que des fois, eh bien, j'oublie le principe de dire, mais dans la parole, il y a plein de choses qui me disent, Fred, mais sois heureux, épanouis-toi. Et c'est pareil pour toi. Dieu est là pour vraiment te faire du bien. Paul, et j'ai apprécié ce qu'il a dit tout à l'heure en disant, Dieu est simple. Dieu est simple. C'est très simple. Des fois, on nous reproche d'être dans une religion. Je ne suis pas dans une religion, mais j'ai un Dieu qui est simple. Il y a des principes, il me donne un concept de vie. Si j'adapte ce concept à ma vie, forcément, je vais être bien. Je vais être bien. Je vais être bien. C'est vrai que des fois, on complique la vie avec Dieu. J'ai en ce moment, on a une petite jeune qui a été embauchée à mon boulot. Amandine, elle s'appelle. Je dis ça si un jour elle écoute mon prêche sur Internet. Bonjour Amandine. Et elle a 26 ans, je crois. Et elle est en train d'organiser son mariage. Elle se marie le 28 avril 2018. C'est pas mal. Et donc, elle a dû. Je l'entends, elle passe des coups de fil. Elle est à côté de moi, d'à côté de mon bureau. Et je l'entends passer des coups de fil pour organiser son mariage. Et donc, forcément, à un moment, elle a appelé pour la cérémonie. Et on lui a donné toute une liste de choses à faire en disant, mais quelle est la date de votre baptême? Est-ce que vous pouvez nous dire où vous avez été baptisé? Je suis allé la voir. J'ai dit, mais ça sert à quoi? Pourquoi? Pourquoi on te demande la date de ton baptême pour te marier? Voilà, parce qu'on part du principe que le baptême enfant, etc. Et je lui dis, mais c'est un beau jour. Et c'est vrai qu'elle est épanouie, elle est contente, elle est heureuse de se marier avec son ami, là. Et elle a la banane sur le visage. Mais on complique les choses. Un mariage devant Dieu, c'est autre chose que des dates à redonner. Pour moi, c'est. Et je lui ai donné, parce que bon, là, maintenant, ils savent tous voilà, que je suis chrétien dans le bureau. Et donc, j'ai commencé à lui expliquer ce que c'était que le mariage, etc. Et elle dit oui, ok. Et en plus, elle me dit oui, ma mère, je sais, elle est dans les mêmes milieux que toi, milieu protestant, etc. Je dis ben, pourquoi tu te compliques? Mais bon, après, c'est pas à moi de juger, mais c'est vrai qu'on complique parfois les choses. Alors que on a un Dieu qui est simple. On a un Dieu qui est simple. Lamentation 3, 21, 23. Je trouve ça amusant que ce soit dans le livre des Lamentations, ce verset, mais enfin, ces deux versets. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ô Seigneur, que ta fidélité est grande. Je vais le relire. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Et ça, c'est même ma prière. Je voudrais tous les matins pouvoir avoir cette prière, que mon cœur puisse dire ce qui me donnera de l'espérance, les bontés de l'Éternel. On pourrait mettre deux points après espérance. Ce qui me donnera de l'espérance, deux points. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se nous renouvellent chaque matin. Ô Seigneur, mais que ta fidélité est grande. Que ta fidélité est grande. Tu es un Dieu simple et ta fidélité est grande. Ce matin, on était vraiment dans le mot de. Pour résumer la louange, c'était vraiment le principe de rentrer dans la sainteté de Dieu. Vous avez ressenti ça? Dieu veut qu'on rentre dans sa sainteté. Mais pour rentrer dans sa sainteté, il faut qu'on soit saint nous-mêmes. Et Paul est revenu dessus quand il a annoncé pour la scène en disant, mais si aujourd'hui on se jugeait et qu'on ne prenait pas la scène parce que ben, on a péché, mais ben, personne ne la prendrait la scène par rapport à ce que Paul a enseigné dans 1 Corinthiens 11. Personne ne la prendrait la scène. Mais on a un Dieu qui est simple et qui est prêt à pardonner. Il est prêt à te pardonner ce matin. T'es pas là pour te lamenter, t'es pas là pour dire, mais Seigneur, qui je suis pour venir à l'église? Qui je suis pour m'asseoir sur une chaise? Qui je suis pour travailler dans ton église? Qui je suis pour aller voir le pasteur, pour lui exposer des projets que j'aurais spirituellement ou une vision dans mon cœur? Qui je suis pour aller donner une prophétie, moi qui suis pécheur? Et je suis sûr qu'il y en a qui font ça. Je suis sûr qu'il y en a qui se disent, mais qui je suis, moi? Pour pouvoir apporter une prophétie dans l'église, pour pouvoir prier, pour élever ma voix, ne serait-ce que pour aller dire bonjour au pasteur. Pourquoi? Parce que je mets le pasteur sur un piédestal, ça ne sert à rien. Je suis un homme comme un autre. Et pourtant, l'espérance, elle est là. Les bénédictions de Dieu se renouvellent chaque matin. Chaque matin, celles d'hier, tu peux les mettre entre guillemets, à la poubelle et prendre les nouvelles qui sont là, parce que Dieu veut vraiment ton bonheur, il veut que ça pour toi. Il veut absolument que tu puisses te confier en lui et pouvoir t'épanouir. Vous êtes toujours avec moi? Parce que là, normalement, j'avais mis à peu près. Alors, on est combien? Non, je vais en avoir trop là. Il faudrait que je réduise. Allez, je vais prendre 20, 20 amen. 22. Allez, 22, il y en a deux là encore? Ouais, il faut que je corrige. Vous avez 2 minutes? Non. Les bénédictions. Alors, on n'est pas là pour courir après les bénédictions non plus, hein. C'est pas le but, hein. Même si on aime bien être béni, on aime bien quand il y a un prophète qui vient dans l'église pour nous donner une prophétie, on aime bien des choses comme ça. Mais le principe, c'est d'abord de mettre Dieu à la première place, parce que Dieu, il peut te parler directement aussi, hein. T'attends pas à ce que ce soit forcément un prophète qui vienne te donner une prophétie en disant, oh, tu vas être. Non, c'est pas ça. Dieu te parle aussi. J'ai rien contre les prophètes, hein, et je crois profondément au ministère. Ça, c'est indéniable, c'est enseigné dans la Bible. Mais soyons aussi simples que notre Dieu est simple. Le H, et je vais accélérer. J'accélère. Le H comme, vas-y Louis, héritage. Est-ce qu'on peut prendre conscience d'une petite partie de ce qu'on peut avoir avec Dieu? Effectivement, tout de suite, je viens de dire, on n'est pas là pour courir derrière les bénédictions. Mais l'héritage, c'est différent. Il est là. Il est là. On est héritier. On est héritier. Point. On est héritier. Pourquoi on est malheureux? Pourquoi on serait malheureux? Je prends du conditionnel. Pourquoi est-ce qu'on serait malheureux? Alors qu'on a un héritage qui est là. Et l'héritage, il est tellement fort. Il est tellement fort. Il est à la fois concret, parce que Dieu peut très bien te bénir, on va dire, pécuniairement, d'accord, en argent sonnant et trébuchant. Il peut te bénir dans une maison. Moi, je ne vous cache pas, je suis béni, parce qu'Aine et moi, on est béni, on a une belle maison. Et alors? Si Dieu m'a donné une belle maison, et alors? Et alors? Donc moi, je crois en l'héritage de Dieu. Je crois en l'héritage aussi dans le principe que Jésus est venu sur terre pour nous donner déjà une part de son héritage. Quand Jésus est parti, il a bien dit, « Oh, je m'en vais, je vais auprès du Père, je vous envoie le Consolateur. » Consolateur, et vous allez voir, ça va être l'un de mes prochains points. Mais Jésus nous donne des choses. Chaque matin, il est là pour dire, « Ok, on y va. T'as envie, on y va. On court et on y va ensemble. » Donc l'héritage, il est là. Jean 10:10, et ça c'est indéniable, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et que ces mêmes brebis soient dans quoi? Dans l'abondance. C'est écrit en toutes lettres dans la Bible, Jean 10:10. C'est écrit en toutes lettres, soyez heureux. Soyez heureux, je veux que mes brebis, ceux qui me suivent, soient dans l'abondance. Ah, ne soyons pas sectaires à dire dans l'abondance, c'est le fait d'avoir 1 million d'euros sur son compte en banque. C'est pas que ça. Ça peut être. Moi, je connais des millionnaires dans le milieu chrétien, et tant mieux pour eux. Mais c'est pas que ça. L'abondance, c'est à tout niveau. Je pense que l'Église, elle est là pour être dans l'abondance. Et ça peut choquer ce que je dis. Mais moi, ça me choque pas qu'une Église soit dans l'abondance. Qu'on puisse avoir les moyens de nos moyens. Et si vous êtes béni, l'Église sera bénie. Et l'inverse est identique. Si l'Église est bénie, vous serez béni. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, je veux que mes brebis soient dans l'abondance. Alors on y va. Allez, go. Et on roule. En voiture. En voiture, Simone. Vas-y. Le haut, comme l'optimisme. Et tout à l'heure, on l'a lu, hein. Quand on a lu le psaume, c'est bien marqué, éloignez-vous des personnes moqueuses. Les personnes moqueuses ou les personnes qui sont méchantes, ou les pécheurs, la voix des pécheurs, parce que les pécheurs vont vous tirer vers le bas. Et ça, l'optimisme, c'est aussi le principe de dire, mais je vais m'entourer de bon, quelque chose de bon. Et j'ai coutume de dire, ça ne vient pas de moi, mais si tu nourris le chien blanc, ben le chien noir, il va être affamé. À bout d'un moment, il va mourir. Parce qu'il y a deux chiens, un noir et un blanc. On considère que le blanc, c'est le bon, le noir, c'est le moins bon. Si tu nourris le bon chien, eh bien, ce sera bien. Comme le principe du verre d'eau, est-ce qu'on le voit à moitié vide, à moitié plein? Ah, aujourd'hui, on n'a eu qu'une guérison à l'église. Alors, on a eu une guérison à l'église. Il y a une nuance quand même. D'accord? Je ne dis pas la même chose. Pourtant, c'est la même chose. Mais je le dis avec un ton qui est différent. Aujourd'hui, on n'a eu qu'une guérison à l'église. Déception négative. Aujourd'hui, on a eu une guérison à l'église. On a eu un miracle. C'est pas mieux? Parce que je le dis différemment. Pourtant, c'est exactement la même chose. C'est pas la méthode Coué que je veux vous exposer là. C'est le principe que Jésus nous a dit, soyez dans l'abondance. Tout à l'heure, quand j'ai exposé ce que je vis en ce moment avec mon dos à Johan, la première chose qu'il m'a dit, je vais prier pour toi. Ben, je dis, allez, go, on y va. Et il a prié pour moi. Il a prié pour moi. Simplement, en disant, ok, la Bible, elle dit, eh ben, qu'on impose les mains malades, ils sont guéris. Je prie pour toi. Voilà, ça c'est de l'optimisme. C'est le principe de dire, je mets en pratique. Ce n'est pas de l'optimisme dans le principe qui est, on va dire, négatif du terme. C'est dans le sens positif. Voilà, je mets en application, je mets en pratique ce que Dieu me demande de faire. Et on y va, optimisme. Le haine. Alors il y a dans honneur, dans bonheur, il n'y en a qu'un, haine. Mais dans honneur, il y en a deux. Et l'honneur, j'aime bien ça, cette conception de l'honneur. J'aime bien honorer les gens. J'aime bien honorer les gens. Ce qu'on a fait avec l'Espace Café, c'est le principe d'honorer les gens. Ce n'est pas dans le principe de dire « eux, ils l'ont fait, pas vous ». C'est le principe de dire « bravo ». C'est le principe de dire « je vous honore ». Parce que l'Église, elle est fière de vous et effectivement, je suis fier d'eux. J'ai coutume de le dire, mais moi, je suis admiratif sur ce que fait Paul sur les annonces. Quand on regarde les annonces et quand on voit la qualité, je me dis, on a embauché quelqu'un à la télé, à TF1 ou quoi? Non, c'est Paul. Eh bien, Paul, il est meilleur qu'un mec de TF1. Parce que ce qu'il nous fait là, c'est top. Et moi, j'arrête pas de le dire. Là, il est là, tant pis, tu l'entends si tu veux, ou tu te fermes les oreilles. Merci, Paul. Merci, l'équipe de louange. Merci. Merci, l'équipe de louange. Allez, je peux faire une petite parenthèse. Si vous voulez honorer l'équipe de louange, soyez là à 10 heures. Il n'y a rien de plus frustrant pour un groupe de louanges de préparer une louange, se rassembler. Et dans la semaine, de dire, voilà, pour le culte, on a ça dans le cœur. Et puis, ce que j'aimerais, moi, c'est que pendant la louange au culte, on puisse vivre ça. Et c'est comme ça que ça se passe, les répètes. C'est, on voudrait vivre ça. Moi, j'ai dans mon cœur, le leader, il arrive, moi, voilà, ma liste de chants, c'est ça, parce que j'ai dans mon cœur que, tac, tac, tac. Et puis, on commence la louange, il est 10h. Et puis, on voit qu'à 10h20, il y en a qui commencent à venir. Alors que le leader, il était là en se disant, mais s'ils avaient été là dès le début, ils auraient pu se baigner dans ce que j'ai préparé, parce que Dieu m'a mis quelque chose dans le cœur. Est-ce que j'ai là, moi je vous donne mes tripes. Prenez-le bien ce que je vous dis. Arrivez à l'heure. On peut avoir un empêchement, ok. Moi, tous les dimanches, et je vais me gargariser, hein, je suis là à 9h30. Hein. Que je sois de service ou pas, je suis là à 9h30. Hein. L'équipe d'intercession est là à 8h30. Et si tu tombes de ton lit, ça arrive, hein? Moi, ce matin, j'étais arrivé à 5 heures. Je me suis levé pour préparer mon prêche. Un peu plus tard, mais bon. Mais viens, il y a de la place pour toi à l'intercession. Et ne te dis pas, mais qui je suis, moi, pour aller à l'intercession? Mais tu es membre de l'Église. Tu es membre du corps de Christ. Donc vas-y, viens. On a besoin de toi. L'Église a besoin de toi. Ne pas que donner. Et puis il y a le deuxième, vas-y, il y en a un deuxième, et ne pas que recevoir. Ne pas que donner et ne pas que recevoir. Pourquoi ? Parce que je suis là-dessus, je l'ai partagé avec quelqu'un la semaine dernière, je lui dis dans l'église, si tu ne viens que pour donner, t'es mort. Si tu ne viens que pour recevoir, t'es mort. T'es mort, je suis aggravant quand je dis ça, hein, d'accord ? Mais dans le principe de dire qu'il faut un équilibre. Une église, on est là pour donner et pour recevoir. Parce que si tu n'es là que pour donner, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, mais tu ne reçois rien. Tu n'as pas d'enseignement, tu n'es pas voilà, à même de recevoir une nourriture spirituelle, mais tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Tu deviens un anorexique spirituel. Tu es gros comme ça spirituellement, parce que tu ne fais que donner. Et à l'inverse, c'est pareil. Si tu ne fais que recevoir, 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 mais tu ne donnes rien à l'église, tu deviens boulimique. Moi, je n'ai pas besoin de le faire, je suis déjà comme ça. Tu deviens un boulimique spirituel parce qu'il faut l'équilibre, ne pas que donner et ne pas que recevoir. Et l'Église, elle est là pour te donner, tout comme toi, tu es là pour donner à l'Église. L'Église, elle est là pour recevoir, tout comme toi, tu es prêt à recevoir de l'Église ou de tes frères et sœurs. Donc, il faut absolument ça. Si tu veux avoir du bonheur, eh bien, dans ta vie spirituelle, cherche l'équilibre entre donner et recevoir. Ça va ? Vous êtes toujours avec moi ? Oh là là, Fred, il est en pleine forme ce matin. J'ai envie d'y aller. Je sens même plus mon dos, vous rendez compte? Acte 20, 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir dans le principe du partage. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas recevoir et tu ne dois pas que donner. D'accord ? Une notion de partage. Pourquoi ? Parce que si tu donnes, forcément tu vas recevoir. Et ça, c'est biblique. Si tu donnes, tu vas recevoir. Et je l'ai vécu, je peux en témoigner moi-même. Parce que à partir du moment où tu donnes dans le royaume de Dieu, forcément tu reçois. Et pour ça, on a un Dieu qui est simple. Merci Paul. On a un Dieu qui est simple. Il dit, ok, moi j'ai plein de trucs pour toi. Si tu fais ça, je te donne. Si tu fais ça, je fais ça. Et à chaque fois, dans la promesse, dans les promesses, il y a ça. Si tu fais ça, je fais ça. Parce que Dieu aime bien qu'on puisse s'investir. Il veut vraiment des chrétiens, il veut des gens qui sont droits dans leurs bottes, là, et qui se disent, ok Seigneur, moi j'ai un cœur pour toi, eh bien on y va. Et l'Église, c'est ça. Moi, quand je me délecte quand je regarde les annonces. Parce que quand je vois tous ces projets qui sont là, tac, 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 et que je vois des visages différents en fonction des projets, et je me dis, mais bon sang, que l'Église est belle. Que l'Église est belle. Parce que ce n'est pas fini, on a d'autres projets encore à venir. On n'a pas parlé du j'aime tout à l'heure dans les annonces. Si, j'ai pas, j'étais peut-être en train de préparer. Désolé. Mais le j'aime, c'est important. Grandir ensemble dans le ministère. C'est quoi un ministère? Qu'est-ce que ça veut dire, ministère? C'est un service. Grandir ensemble dans le service. Et donc, si tu as dans le cœur de pouvoir servir ton Dieu, mais viens. J'ai regardé la liste, j'avais oublié de nous inscrire, donc là, c'est fait. Mais on devrait avoir une liste qui devrait être longue comme mon bras. Parce qu'on a un cœur pour Dieu et on devrait aller venir. Attention, je ne vous force pas. Ce n'est pas le principe de dire « je vous force, allez, venez hein. ». C'est le principe de dire « on va se faire du bien pendant cette journée-là ». On va se faire du bien. On va rencontrer des gens d'autres églises, etc. Et on va se faire du bien, on va faire des nouvelles connaissances. Il y aura peut-être des projets qui vont se mettre en place ou des projets qui vont être exposés parce qu'on va se faire du bien. Donc ça, ça fait partie de l'église, l'espace café, le j'aime, les enfants. Actuellement, il y a quelqu'un qui s'occupe des enfants. Tout ça, c'est du service. C'est le principe de donner à l'église. On donne à l'église. Pourquoi? Pour recevoir. Vas-y, Louis. Le E comme Esprit Saint. Ça, je l'ai déjà énoncé tout à l'heure. Jésus, quand il est reparti près du Père, il a dit « Je m'en vais près du Père, mais je vous envoie le Consolateur ». Et grâce à lui, vous allez faire des choses bien plus grandes que ce que moi j'ai fait. Il l'a dit ou pas, ça, Jésus? Donc, qu'est-ce qui nous empêche d'être heureux? Parce que grâce au Saint-Esprit, on devrait rentrer dans cette plénitude, dans ce bonheur de pouvoir voir les actions au travers de nous, du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et on devrait faire des choses bien plus grandes que Jésus. Donc, les expressions du style « ce matin, on n'a eu qu'une guérison à l'église », ça n'existe pas. Parce que grâce au Saint-Esprit, on voit des guérisons. Et on vit des guérisons, on vit des choses ici. On vit des choses. C'est vrai qu'on aimerait tous voir des morts ressuscités ou des aveugles retrouver la vue. On aimerait parce que c'est quelque chose de... Voilà, on va le voir. Là-dessus, j'en doute absolument pas. Ou des dos qui vont se refaire aussi, ça va être sympa ça. On va l'entendre craquer un bon coup et puis tac, il va se remettre droit. Voilà. Ou des paralytiques qui se lèvent de leur fauteuil. Moi, j'en ai vu. Hein. J'ai vu des paralytiques se lever. J'en ai vu. Mais l'Esprit Saint, il est là aussi pour nous faire grandir et acquérir une stature spirituelle pour qu'on puisse avoir le bonheur, ce bonheur, cette plénitude avec Jésus, grâce au Saint-Esprit. Le même esprit que celui qui est dans Jésus. Hein. Le même. C'est exactement le même. Je parle bien du même esprit. Hein. Vas-y, Paul, Louis. Luc 11, 13. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, à combien plus forte raison, mais à combien plus forte raison, votre Père Céleste qui est dans les cieux donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? À combien plus forte raison? Si vous imaginez, vous êtes méchant, vous donnez, même quand vous êtes méchant, vous donnez des choses à vos enfants, alors imaginez Dieu qui est nettement plus gentil que ça. Pourquoi il ne vous donnerait pas le Saint-Esprit? Il ne veut que ça. Je parlais avec quelqu'un la semaine dernière qui a reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Il était tout feu, tout flamme. Il était heureux comme un pape. Et j'étais content de l'entendre. Il me dit, mais Fred, je reçois déjà des paroles. J'ai déjà des visions. Ben, je dis, ben, c'est bon. Ben, continue. Vas-y, fonce. L'Église a besoin de toi. On a besoin de toi. Si tu as des paroles, viens me voir. Si tu as peur de les donner, viens me voir. Je le ferai. Mais ça, c'est bon. Et moi, j'encourage ça. Il faut absolument qu'on puisse avoir ce feu pour Dieu, un feu qui est puissant, un feu où on est vraiment avec ce Saint-Esprit qui est en nous, qui nous permet de déplacer des montagnes, parce qu'on peut le faire. On peut le faire. Allez, je vais terminer, Louis. Le U comme l'unité. L'unité de l'Église. Je ne vais pas le faire, on pourrait lire Éphésiens 4, qui nous parle d'unité, Éphésiens 4. Unité, c'est tellement important l'unité. Le fait de pouvoir être le corps de Christ. L'Église, c'est ça, c'est le corps, c'est un corps. Et la Bible nous dit que celui qui épouse n'est pas auriculaire, celui qui épouse n'est pas oreille. Parce qu'on est un corps. Donc l'unité, elle est importante pour ça. Et le dernier point, eh bien ça c'est pour une très jolie conclusion. Pour pouvoir un jour être devant notre Créateur et lui dire « Seigneur, eh bien voilà, moi j'ai fait en sorte que je puisse être vraiment actif pour toi, avoir ce bonheur spirituel, de pouvoir être devant toi et de pouvoir te mettre à la première place de ma vie. Ok, j'ai péché, Seigneur. Oui, c'est vrai, j'ai péché. Je t'ai demandé pardon, j'ai essayé. Le principe de la repentance, c'est de faire demi-tour et de m'éloigner de mon péché. Mais voilà, au moins, j'ai fait des efforts. Et là, Jésus te dira, ouais, bah, bon, je me souviens, tu as péché le 9 avril 2017, là, tu as péché. Bon, ouais. Non, il va te dire, oui, j'ai vu ton cœur. Parce qu'on a un Dieu qui regarde directement là. Et il a envie qu'on avance. J'avais une citation, elle est là. C'est Bouddha qui a dit ça. Alors, je ne sais pas si c'est Bouddha blanc ou Bouddha noir. Le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive. C'est Bouddha qui a dit ça. Le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive. Moi, j'aime bien. Même si ça vient de Bouddha, j'aime bien. Le bonheur se cultive. Oui, le bonheur se cultive. Et il se cultive en étant sur une base qui est bonne. Si tu as une bonne base, tu as le bonheur. Et ce n'est pas l'inverse. Parce que je suis heureux, tiens, je vais taper un petit peu dans tous les sens. Non, d'abord, cherche un équilibre dans ta vie. Hop, tu te dis, voilà, ça, c'est des bonnes bases. Et on va voir ce que ça va donner. Mais, allez, vas-y, mets Dieu à l'épreuve. Il y a un domaine où on peut mettre Dieu à l'épreuve. Dans l'argent. Et ça, c'est dans la Bible. Ok, Seigneur, tu veux que je te donne de l'argent? J'ai pas de quoi finir mon mois. J'y vais par la foi, je te mets à l'épreuve. Je l'ai fait. On l'a fait. Et Dieu a pourvu. Retour de Jésus. Ne soyons pas non plus axés sur le principe de dire « Je vis avec ma tête dans les nuages. Oh là là, là il va, le nuage est gris, Jésus revient bientôt. » C'est pas ça. Jésus te dit « Peu importe la date. » Même lui ne la connaît pas. Peu importe la date. Le principe, c'est que le jour où je vais revenir, tu sois prêt. Et c'est ça. Ce sera ça la récompense. C'est le fait de pouvoir se présenter devant lui et avoir un cœur qui soit digne de lui. Ouais. Digne de mon Créateur. Et donc, ma dernière dia. Ah, j'ai fait la synthèse. B comme bénédiction. H comme héritage. O comme optimisme. Les deux N, ne pas que donner, ne pas que recevoir. Le E de l'Esprit Saint, le U de l'unité et le R du retour de Jésus. Et donc je finis avec cette image. Vas-y. Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne alors qu'il réside dans la façon de la gravir. C'est ça le bonheur. C'est le fait de pouvoir mettre en pratique tout ce que Jésus veut qu'on mette en pratique. Pour pouvoir continuer à avoir ce bonheur, le bonheur de pouvoir travailler pour lui, le bonheur de pouvoir venir à l'église et être vraiment, avoir cette confiance en lui, avoir la confiance en Jésus, pouvoir mettre sa foi en pratique. Ce n'est pas toujours facile, hein, mais mettre sa foi en pratique. Ouais. On va se lever, on va prier. Je vais demander à l'équipe de louanges s'ils peuvent nous faire un fond musical. Ce matin, j'aimerais vraiment que si quelqu'un a des obstacles pour être heureux, il y en a. La semaine dernière, Monica a donné un témoignage en disant « Voilà, je suis allé dans la rue, c'était la première fois, j'ai rencontré quelqu'un qui partait se suicider. Je lui ai parlé de Jésus, elle est toujours vivante aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que cette personne n'avait pas de motif de joie dans sa vie. Au contraire, elle était là en train de nourrir le chien noir. Et le chien noir, à force de le nourrir, l'a mené vers une fatalité, on va dire. Aujourd'hui, je sens parler d'aller jusqu'au suicide, mais il y a des personnes qui n'arrivent pas à trouver cette plénitude. Et pourtant, elle est là. Elle est là. Et si vraiment il y a des personnes qui ont dans les tripes un boulet, un poids qui pèse là, parce qu'ils savent que dans leur vie, il y a quelque chose qui les empêche d'avancer. Viens, viens, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi parce que ce poids que tu as là, il va partir, là, ce matin. Et à partir de là, eh bien, il y a Jésus qui va continuer ou qui va commencer à travailler en toi. Parce que peut-être que tu n'as pas donné ta vie ce matin, Jésus. Et peut-être qu'il y a des personnes ici qui veulent connaître ce qu'est le fait de vivre avec Jésus. Ou que l'inverse, que Jésus vive en eux. Eh bien, si c'est ton cas, si tu as envie de donner ta vie à Jésus ce matin, viens, je vais prier pour toi. Viens me le dire. Si c'est quelqu'un qui veut avoir un nouveau départ avec Jésus et qui a vraiment ce poids qui est là, viens, je vais prier pour toi. Parce que je crois au miracle, je crois au principe que si je t'impose mes mains, eh bien le Saint-Esprit qui est en moi peut te guérir. Je crois à ça. J'ai eu deux amen. Parce que je crois profondément à tout ce que la Bible nous enseigne. La Bible, elle est vraie, elle est juste. On va... Vas-y Aurélie, tu peux y aller. Donc je vais te laisser du temps, je vais prier, et puis je te laisse du temps pour venir. S'il n'y a personne, c'est très bien. Je pense qu'il y a du monde. Je pense qu'on a, pour certains qui ont ça, qui ont ce poids-là, je l'ai dans mon cœur. Je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin de ça. Mais n'hésite pas, ne sois pas timide. Ne te dis pas, oh là là, qu'est-ce que les gens vont dire de moi. On s'en fiche, c'est pas ça. On s'en fiche. Les gens ne sont pas là pour te critiquer ou te juger. Ils sont juste là pour dire, ok, ben, Fred, il va prier pour toi. Moi, je vais m'unir à Fred pour qu'il puisse avoir la guérison, une guérison puissante. Puissante. Elisabeth, si tu veux venir, tu peux venir, s'il te plaît. Seigneur Jésus, je te rends grâce. Je te loue parce que tu es un Dieu glorieux et merveilleux, Seigneur. Je te loue parce que c'est toi qui guides, c'est toi qui donnes, c'est toi, Seigneur Jésus, qui est là pour guider les pas. C'est toi, Seigneur Jésus, qui veut qu'on puisse avancer. C'est toi qui veut qu'on puisse grandir, Seigneur. Et je le crois profondément. Je crois profondément, Seigneur, que tu es un Dieu juste, un Dieu merveilleux, un Dieu simple. Simple dans le bon sens. Tu as cette simplicité de cœur pour que l'on puisse nous aussi avoir cette simplicité de cœur. Parce que dans ta parole, tu dis, mais laissez venir à moi les petits enfants. Même les enfants qui ont un cœur simple peuvent venir vers toi. Eh bien, Seigneur Jésus, moi, je veux avoir ce cœur simple et pouvoir, Seigneur, te prier, pouvoir m'approcher de toi parce que je sais, Seigneur, que tu as envie du meilleur pour moi-même. Alors, je te loue, Jésus, je te loue parce que tu es un Dieu glorieux, merveilleux et merci pour tous tes bienfaits, Jésus, de chaque jour. Amen.